Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show, et on va continuer notre découverte de l'appellation de Tavel, cette fois-ci avec Jean-Baptiste Lafond au domaine Lafond Roque Épine. Alors, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous connaissez déjà un petit peu Tavel, mais cette fois-ci vous allez avoir un avis différent là-dessus, de la part de Jean-Baptiste, qui est un jeune vigneron qui reprend en main le domaine. On a quelques années d'écart à peine avec Jean-Baptiste, donc c'était un échange assez franc et direct. Et c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue de ces vignerons sur l'évolution des appellations françaises, sur l'évolution de l'appellation Tavel. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à deux personnes. Mettez une note à ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, bref, sur votre application de podcast favorite et même sur toutes les appellations de podcast que vous pouvez trouver. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente écoute et je vous dis à dans deux semaines. Salut. C'est parti, bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici, on est au domaine Lafond, on poursuit notre découverte de Tavel. Je te disais un peu plus tôt, t'es la deuxième personne qu'on vient voir aujourd'hui. Et puis on rencontre deux autres demain, on va forcément parler de l'appellation Tavel.
Ouais.
Mais avant tout, est-ce que toi tu peux commencer par te présenter ?
Alors du coup, je m'appelle Jean-Baptiste Lafond, je suis la troisième génération du domaine. Donc moi personnellement, j'ai commencé en faisant si on part des écoles, des études, j'ai commencé en faisant un bac général, un bac S, sans forcément avoir de prédisposition ou d'envie particulière de travailler dans le vin. Après, je me suis quand même posé la question et de me dire bon, maintenant que voilà, ça c'est fait, quelle est l'étape suivante? Et c'est vrai que là, du coup, naturellement, je me suis dirigé vers un BTS vitionneau. Enfin, c'est le parcours le plus classique qu'on retrouve dans la vallée, enfin dans les vignerons. Et là, pour le coup, je suis parti en Bourgogne, donc okay. À Beaune, faire le BTS vitionneau en 2 ans. Ça a été une super expérience. Déjà, ça permet d'apprendre les bases, on va dire, du monde du vin, travailler la vigne, travailler en cave. Après, concrètement, c'est pas forcément l'endroit où on apprend le plus. Enfin, je pense que des métiers comme ça, qui sont très manuels, où on s'adapte à mère nature et au marché et à plein de choses, c'est pas forcément dans des cours qu'on apprend comment ça se passe. Donc, j'ai plus appris sur le tas après depuis que je suis revenu. L'avantage, je pense, de ces formations, c'est que ça met en petit comité plusieurs vignerons de la France entière, qui fait que du coup, dans les dégustations qu'on faisait le soir entre nous, les choses comme ça, on apprend à goûter plein de trucs. Et en fait, on ouvre nos horizons à différents aspects du monde du vin. Et moi, pour moi, c'est la première des qualités. Et après ce BTS vitionneau, je suis revenu directement au domaine, où du coup, je suis revenu en 2018. Et depuis, ben voilà, je suis présent au domaine pour essayer de faire avancer les choses.
Trop cool. Est-ce que jusqu'au lycée, du coup, quel rapport est-ce que tu avais avec le domaine? Enfin, avant ton BTS, j'entends. Est-ce que t'étais là, tu donnais un coup de main, tu faisais, je sais pas, tu venais voir, tu faisais des choses ou...
Moi, du coup, j'ai grandi dans la maison qui est à 100 mètres du domaine. Donc forcément, il y a quand même une proximité géographique qui fait qu'on y va. Qui fait que bah, pendant les vendanges, nous devant chez nous, on avait une petite rangée de vignes que mon père avait plantées. Et du coup, pendant les vendanges avec mon frère, on allait ramasser, couper les raisins, les mettre dans des seaux et les amener à la cave. Enfin voilà, c'était un peu pour mettre le pied à l'étrier, mais de manière amusante. Donc petit à petit, ça s'est fait en fait comme ça, mais sans forcément pousser. Enfin, mon père nous a jamais poussé là-dedans. Tout simplement parce que c'est un métier de passion. Et si on n'a pas la passion, on n'y arrive pas. Donc en fait, il faut que ça vienne de nous-mêmes plutôt que de nous obliger à le faire, de le faire par dépit ou par obligation, et là où ça marche pas.
Ouais, c'est clair. Je pense qu'on est ultra d'accord là-dessus. Donc, il y avait une prégnance de ça jusqu'au lycée. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur où tu t'es dit, bah en fait, ouais... Je fais ça ou ça a été vraiment naturel pour toi?
Non, j'ai pas eu d'événement déclencheur. Okay. J'ai essayé d'y repenser plusieurs fois. Non, ça a été naturel. En fait, à aucun moment je me suis posé la question, je vais peut-être faire autre chose, peut-être faire une autre école. Non. Non, c'était vraiment à la limite, là où j'aurais pu prendre un autre, c'est peut-être me spécialiser à la fin de mon BTS, partir sur un an, soit pour faire une licence ou après... j'ai d'autres copains de promo qui eux sont partis pour faire un DNO ou des choses comme ça, chose que moi j'ai pas fait, je suis revenu au domaine, mais voilà. Sinon le monde du vin c'était naturel et personne s'est forcé quoi.
C'est clair. Donc t'arrives ici, enfin tu reviens ici plutôt. Ouais. Comment ça se passe ton retour? Est-ce que t'es un peu en mode donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans tu m'as dit que t'es...
Moi c'est depuis 2014. Mon frère, c'est 2018.
Ouais, donc un
moi, c'est 2014.
Donc, quasiment 10 ans, quoi, 9 ans maintenant. Comment ça se passe pour toi quand tu reviens? Parce que t'es pas parti longtemps, mais t'es quand même parti 2 ans.
Ouais.
Est-ce que t'es un peu en mode, j'ai appris plein de choses, il faut qu'on change des choses, ou à l'inverse, j'ai envie de faire des choses qu'on faisait pas avant?
Alors, déjà, honnêtement, il y a le premier choc. On passe de la vie étudiante à la vie professionnelle.
Comme ça, on l'a tous vécu.
Mais ben, voilà, il y a ce premier choc. Après, une fois qu'il est digéré, déjà dans un premier temps, et c'est aussi ce qu'a fait mon frère. Et dans un premier temps, ce qu'il faut digérer et ce qu'il faut apprendre, à comprendre comment ça marche, parce que la vigne, c'est un matériel végétal qui est vivant. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est un être à part entière presque, et du coup il faut arriver à comprendre comment chaque parcelle fonctionne, comment la vigne de manière générale qui est ici fonctionne, comment en fonction de nous, comment on travaille, ça fonctionne, avant de pouvoir remettre en question des pratiques, quoi que ce soit, d'un point de vue cave ou d'un point de vue vigne. Il faut aller déjà qu'on s'imprègne de comment le domaine travaille, et de vraiment, parce qu'on peut pas arriver dans un endroit et dire bah tiens, vous faites A, moi je déclare il faut faire B. Parce que déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait A, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et dans ce cas-là, en fait, on fait pas un A, on fait pas un B, on fait un A bis. Et c'est ça que je trouve intéressant. Du coup, il y a un fil rouge, et ce fil rouge, il y est parce qu'on apprend à connaître nos parcelles déjà dans un premier temps.
Et donc toi, c'est ce que tu fais en revenant, tu décides de passer plus de temps.
Par exemple,
quelque chose que tu faisais moins avant.
Genre, principe, depuis que je suis revenu, j'ai presque tout le temps été plutôt en cave. Mais pendant les premières, enfin jusqu'à récemment, ça fait 10 ans que je suis là. Pendant 7 ans, pendant les vendanges, j'étais dans les vignes. Parce que justement, c'est un peu le moment le plus important, et du coup, ça permet de voir que telle parcelle, ben voilà, il y a tel raisin qui sort avec telle pratique, voilà, c'est, et comme ça derrière, après, on fait le lien. Et maintenant, quand on est en cave et qu'on est en vendange, voilà, on dit, bah tiens, il y a tel grenache de telle parcelle qui arrive. Hop, on sait déjà directement comment ça va arriver, quel est l'état des raisins et qu'est-ce qu'on va en faire.
Tu fais partie des du coup des jeunes vignerons.
Ouais.
Comment est-ce que tu vis ce métier? Je pense que tu dois avoir moins de 30 ans. Comment est-ce que tu as vécu justement ton insertion professionnelle là-dedans? Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu fais face, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs qui sont super bien?
Moi, je dirais que, en fait, on n'a pas de difficultés parce que on a la chance d'avoir notre père, la génération au-dessus, qui a transmis et en fait qui nous fait totalement confiance. Parce que il y a des fois il y a des domaines où la génération d'avant elle s'accroche un peu et elle veut pas lâcher le morceau, et là il peut y avoir des conflits. Nous ça s'est pas du tout passé comme ça. Tous les choix qu'on a décidé de mettre en place avec mon frère, ben notre père, ça a été le premier à nous soutenir. Donc en fait on n'a pas eu forcément de problèmes vis-à-vis de ça. On va dire que le seul problème qu'on a et le seul challenge qu'on a, ben, c'est un peu celui de tous les vignerons, c'est comment accompagner ce changement climatique, comment essayer de faire en sorte qu'on y arrive, comment essayer de répondre au marché qui évolue. Mais c'est vrai que de manière générale, en interne au domaine, on n'a jamais eu de soucis.
Alors on reparlera peut-être de ces éléments marché et changement climatique juste après pour savoir un peu comment est-ce que tu fais face en ce moment, enfin comment tu vis les choses. On est au sein de l'appellation Tavel. Moi, c'est la première fois que je viens ici et je pense que c'est même la première fois que je bois des vins de Tavel. Je n'avais jamais bu avant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'appellation, de comment toi est-ce que tu la vois, en fait un peu ce que tu veux, mais comment est-ce que tu vois cette appellation?
Cette appellation, moi, je trouve la force qu'on a, c'est que on a une antériorité, on a une histoire. On n'est pas créé il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Voilà, on est là depuis 1936. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est notre force. Après, sinon, l'appellation Tavel, moi personnellement, elle me correspond plus dans les grandes lignes, parce que les vins qui y sont produits me correspondent pas, et parce que 90% des vins qui y sont produits, malheureusement, je prends plus de plaisir à les boire, quoi. Je trouve que on remet beaucoup trop en question la communication et pas forcément les pratiques du vigneron, et c'est toujours plus facile de dire mon produit il est bon, ce qui est pas bon c'est la com, plutôt que de dire en fait la com elle est ce qu'elle est, mais moi mon produit je pourrais faire quelque chose de mieux, quoi. Et la remise en question, qui pour moi est la qualité numéro un de tout chef d'entreprise, même pas vigneron, quoi, de tout le monde, si on veut avancer dans la vie, il faut se remettre en question. Et en fait, on l'a pas à Tavel, de manière générale. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a plusieurs virages qu'on a ratés, ou certains qu'on a pris et qu'on n'aurait pas dû. Et du coup, maintenant, on se retrouve à faire des vins standardisés, pas intéressants, sans âme, ils sont bons, hein, techniquement, il n'y a pas de défaut, c'est aromatique, mais voilà, ça raconte pas d'histoire, ça raconte pas de, il y a pas d'émotion, il y a pas de, quand on en goûte un, on se dit pas, tiens, là, le vigneron, je sens sa pâte, je trouve que on est devenu un peu trop un produit standard, alors que pourtant on est une toute petite appellation et on pourrait tellement s'amuser et tellement mieux faire et faire parler les vignes. On ne laisse pas assez la place au terroir, et on n'accorde pas assez de confiance au raisin.
Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu essayes de faire Davantage?
Bah c'est vrai que nous avec mon frère petit à petit de manière générale sur le domaine on essaye de réduire au maximum les interventions dans les vignes. On essaye de par exemple là cette année on va presque rien levurer. Voilà, on essaye de tout faire en indigène. Alors sans forcément coller une étiquette voilà, j'ai tel label ou j'ai pas tel label, mais c'est juste voilà d'essayer de se sortir de ce monde où on a des artifices physiques et chimiques qui font que au final le vin je suis le vigneron A, je fais le même vin qu'en fait le vigneron B qui est à côté de moi qui fait le même que le vigneron C. Et c'est ça où je trouve que c'est pas intéressant parce que à Tavel on a 880 hectares, 900 hectares, on pourrait tellement s'amuser à faire plein de vins différents à montrer la palette de nos terroirs parce qu'en fait nos trois différents terroirs qu'on a il y a très peu
nous, d'ailleurs alors pour les personnes qui nous écoutent
qu'on
vous
n'avez
pas la chance de voir ça mais allez voir la vidéo.
Des terroirs calcaires de sable et des galets roulés et enfin dans le sud de la France enfin par chez nous il y a très peu d'appellations qui ont cette diversité de terroirs et en fait on l'oublie cette diversité parce qu'on fait des vins qui se ressemblent tous quoi.
Et donc toi la manière dont tu travailles ça c'est en essayant de faire justement des parcellaires entre guillemets ou en tout cas des vins terroirs par terroir.
C'est ça, on essaye de faire un peu quelques parcellaires, même sans forcément aller jusque dans la commercialisation, mais que ça soit en termes de vinification de cuve, des fois à chaque vendange on s'amuse à vinifier un terroir dans une cuve, un autre terroir dans une cuve, ou des fois on a un terroir qu'on met dans deux cuves côte à côte avec deux vinifications différentes, on voit comment ça évolue. Voilà, on se remet en question, ça va pas. Et loin de là, ça va pas à chaque fois. Jusqu'au stade où on commercialise parce qu'on trouve ça excellent, mais au moins ça permet de se poser des questions et voilà, c'est vrai qu'après c'est le seul regret que j'ai avec cette appellation quand je vois mon grand-père qui s'est battu pendant des années pour l'appellation et qu'au final maintenant on en est arrivé à un point à se dire est-ce que en fait on se sent intégré, enfin est-ce qu'on se sent en termes de vin intégré dans cette appellation, on en est arrivé à se poser des questions quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait.
Ouais, c'est clair. Du coup, là, sur les essais que tu fais, donc tu dis, c'est pas encore spécialement concluant, ou en tout cas pas suffisamment pour commercialiser ou pour le faire à plus grande échelle.
Ouais.
Mais est-ce que t'as fait des découvertes au cours de ça qui t'ont fait changer une pratique ou changer quelque chose?
Ah ben complètement. Moi, depuis qu'on a commencé à se poser des questions sur les intrants qu'on met en vinification, ben en fait, on s'est rendu compte que entre le discours qu'on a de manière générale, c'est comme pour si on prend un point particulier qui peut être assez précis, la fermentation malolactique à Tavel, il y a un grand consensus comme quoi il faut bloquer la fermentation malolactique parce que sinon, techniquement, on perd en acidité. Et donc les œnologues et les vignerons partent du principe qu'à partir du moment où on perd en acidité, on perd forcément en fraîcheur. Sauf que nous, en fait, là, ça fait quelques années qu'on pratique, qu'on fait la fermentation malolactique, parce que voilà, on se pose des questions, on se dit, en fait, est-ce que c'est réel, quoi ? Et on perd pas spécialement de fraîcheur. Et même, je dirais plus que le peu qu'on en perd, en fait, derrière, on gagne tellement en complexité, en structure, en potentiel de garde, qu'en fait, on va dire
coût-bénéfice.
On est largement gagnant quoi. Et en fait, du coup, en faisant une fermentation malolactique, on se met à faire des tavels qui sont un peu plus vineux. Et du coup, on se met à faire des tavels avec un peu plus deep gastronomie. Et voilà. Et du coup, c'est toute une autre réflexion qui rentre en jeu. Voilà, c'est un exemple. Enfin, j'en aurais plein d'autres. Mais du coup, on se rend compte avec mon frère que dès qu'on arrête de mettre tel produit, on nous dit vous allez avoir tel problème. En fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que si le travail, alors ça c'est aussi une condition qui est importante, si le travail il est fait dans les vignes et que les raisins qu'on rentre ils sont sains et il n'y a pas de carence, il n'y a pas de déséquilibre, ça va se passer bien. C'est sûr que si les raisins qu'on rentre il y a des problèmes, forcément on a besoin de tous ces artifices pour pallier aux problèmes qu'on a au niveau des raisins. Mais en fait le travail qu'on fait dans les vignes il n'est pas du tout valorisé dans cette pratique. Et le fait de faire confiance aux raisins, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes qu'on potentiellement en aurait, mais qu'en fait, on n'a pas. Et comme ça, du coup, c'est vrai qu'on se pose. Enfin, ça nous amène encore plus à nous poser des questions, parce qu'on se dit, mais finalement, tout ce qu'on sait, en fait, il y a peut-être c'est vrai dans certains cas, mais il y a des cas où on pourrait se passer de beaucoup de choses sans forcément avoir une qualité qui soit moins bonne, et des fois c'est même meilleur.
Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est aussi le sujet du vin, je pense, de manière générale, c'est que tu as toujours envie d'essayer quelque chose d'autre, de progresser, de t'inspirer d'une autre région.
Bah oui, c'est vrai que moi je goûte très rarement, enfin même presque quand je suis hors, enfin on va dire dans un cadre privé, je bois très rarement les vins du domaine, déjà. Et après je goûte aussi très rarement des vins de la région. Et c'est vrai que du coup le fait de goûter des vins de Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie, ben on se dit ah ouais putain, là-bas ils arrivent à faire ça. Et après du coup on rencontre le vigneron, on discute, ah ouais tu fais quoi comme pratique, et petit à petit en fait on se dit que ben oui, si lui il y arrive avec ces conditions là, pourquoi est-ce que moi j'arriverais pas, et c'est bien en fait, il faut échanger entre vignerons. Et c'est aussi un peu ce qu'on a perdu à Tavel, c'est que on est arrivé à un point où en fait plutôt que d'être tous dans le même bateau, on est un peu tous chacun l'un contre l'autre, et il y a plus cette notion d'unité.
Ouais, c'est quelque chose que tu sens?
Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent dans beaucoup d'endroits. Enfin, je pars du principe qu'à part quand tant que l'appellation va bien, type Châteauneuf-du-Pape, là il y a une unité. Je vois les ce qu'ils ont, un syndicat des jeunes vignerons, il y a une centaine d'adhérents. Voilà, c'est il y a une unité, il y a une force, ils avancent. Par contre, dans les appellations où ça commence un peu à tirer la langue financièrement, et que les ventes, quand on commence à se poser des questions, bah là par contre c'est chacun pour soi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors pas sur l'ensemble de l'appellation, mais voilà, il y a certains clivages qu'il y a et qui ont du mal à disparaître, et c'est un peu dommage.
En tout cas. Alors, tu parlais de commercialisation justement à l'instant. Ouais. On va les déguster juste après, mais où est-ce qu'on trouve tes vins, et comment est-ce que tu les distribues ?
Alors nous, on va dire, on fait pour le Tavel, du coup je parle pour le Tavel, on fait à peu près 70% en France et 30% à l'export.
Ok.
À l'export, ça va plutôt être l'Europe, type Belgique, Pays-Bas, enfin des pays qui sont... on va dire connu pour être consommateur de la vallée du Rhône, Danemark et les États-Unis. Bon, les États-Unis, ça reste aussi l'un des plus gros marchés pour la vallée du Rhône, et aussi pour le Tavel, parce que du coup, Tavel, étant donné qu'on fait quand même des rosés, enfin j'ai horreur de dire que Tavel est un rosé, parce que pour moi ça ne l'est pas, c'est un rouge clair. Mais bon voilà, du coup ils ont l'habitude de consommer des vins avec de la puissance aux États-Unis. Notamment avec cette mode Parker et compagnie. Donc en fait, boire un rosé qui est complexe et avec de la puissance, ça les dérange pas du tout. Donc ça reste un gros marché pour nous. Et après sinon, sur le territoire français, on va être présent chez des cavistes, notamment par exemple l'enseigne Cave à Vin.
Okay.
Voilà, c'est, et après dans les restaurants. La base de Tavel, on devrait être présent dans beaucoup plus de restaurants que ce qu'on est à l'heure actuelle, et dans beaucoup plus de cavistes, quoi. Et dans beaucoup moins de grandes surfaces. Enfin, c'est le but de toute appellation de manière générale, hein. C'est d'être le moins présent possible en grande surface, et le plus présent possible en CHR. C'est là où c'est le plus qualitatif, on va dire, et c'est aussi le moins volatile. C'est là où c'est le plus serein. Quand on est sur des cavistes ou des restaurateurs, on est moins facilement remplacé pour une question de prix ou de volume, surtout si on fait de la qualité, que si on est en grande surface, quoi.
C'est clair. Donc tu parlais d'évolution du marché un peu plus tôt. Enfin, un peu plus tôt, t'as mentionné deux éléments, marché et changement climatique sur cette adaptation. Du coup, comment est-ce que tu vois le marché évoluer pour commencer?
Alors le marché, comment est-ce qu'on le voit évoluer? Alors c'est assez paradoxal, puisque on entend beaucoup une déconsommation sur les vins rouges.
Ouais.
Et une augmentation des consommations sur les blancs et les rosés. Sauf qu'à Tavel, on n'a pas d'augmentation de consommation, on a même une énorme déconsommation.
Ok.
Alors à quoi on l'explique, c'est qu'en fait, enfin alors après c'est mon explication personnelle à moi, c'est pas forcément la parole du syndicat, mais globalement Tavel c'est présent dans beaucoup de grandes surfaces. Concrètement, moi je dirais qu'à peu près 60% des volumes de l'appellation Tavel sont vendus en grande surface. Ce qui fait que c'est énorme. Les grandes surfaces ont pris un sacré coup pendant le Covid, ce qui fait qu'il y a eu du coup une baisse de la consommation, et on n'a pas réussi à répercuter la perte de volume sur les autres secteurs. Et aussi parce que le problème, c'est vu qu'on fait un vin qui est axé grande surface, ben forcément, il est plus axé caviste et restauration. parce que c'est deux consommateurs différents. Ouais. Et chose, enfin, c'est, je jette pas la pierre ni à l'un ni à l'autre.
Non,
hein.
C'est que voilà, on... c'est des moments de consommation différentes aussi.
Exactement. C'est pour ça que du coup, ça revient un peu sur le principe de la fermentation malolactique. À partir du moment où on perd soi-disant de la fraîcheur, ben ça convient pas au marché de la grande surface où il faut des vins frais, digestes, voilà. Alors que si on est sur le marché des cavistes et de la restauration, là, on peut faire des vins avec un peu plus de vin, quoi, avec un peu plus de matière. Et donc, du coup, on peut se permettre de faire la fermentation malolactique. Et donc, c'est vrai que de voir cette baisse de consommation qu'on n'a pas su répercuter ailleurs, bah du coup, on se retrouve avec déjà une... Il faut savoir que Tavel, la population qui boit du Tavel, elle est vieillissante. Moi, je sais, je fais pas mal de tournées partout en France des chez des cavistes qui font des journées portes ouvertes, des choses comme ça. À chaque fois que je parle de Tavel à des jeunes, ils me disent « Ah, mais c'est le vin de mon grand-père. »
C'est vrai ?
Ou de ma grand-mère, ou sinon de mes parents. Mais quand ils me disent de mes parents, ils ont 40 ans. Donc en fait, voilà, c'est les 60 ans et plus qui boivent du Tavel. Le problème, c'est que bah ouais, techniquement, ces gens-là, ils en disparaissent tous les jours. Hein. Et du coup, bah forcément, ce renouvellement de clientèle, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que du coup, on fait des vins qui leur correspondent pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette remise en question dont je parlais tout à l'heure. Et donc, moi, pour moi, à terme, on va dans le mur, quoi. Il faut se remettre en question et revoir nos produits. Parce que on s'en rend compte. Je pense que le Covid a été le facteur, ça a été
déclencheur,
déclencheur et ça a augmenté la cadence. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un souci de commercialisation.
Et comment est-ce que tu adaptes justement le produit à ce nouveau goût ? Alors si tu devais changer, au-delà de toi, mais tu vois, quelle est la différence que tu vois entre les deux en termes de goût, en termes de...
Ben en fait, pour moi, le problème de Tavel, le problème numéro un, c'est qu'on est classé dans les rosés. Parce qu'en fait, quand on... Maintenant, alors c'était pas le cas dans les années 80-90, puisqu'il n'y avait pas la mode des rosés de Provence, on va dire. Mm-hmm. Beaucoup très clair sur la Milik, la banane, bonbon anglais. Sauf que maintenant, le consommateur d'aujourd'hui, quand il achète un rosé, quand il commande un rosé au restaurant, il s'attend à avoir cette aromatique. Mm-hmm. Sauf que si on lui sert un Tavel, ben, il sera déçu. Donc forcément, il va se dire, ah ben non, moi, j'attends pas ça.
Un rosé,
voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on soit classé dans les rouges. Et bon, là, du coup, c'est techniquement, c'est impossible. Enfin, on va parler... Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Ce serait une réforme qui serait, enfin, c'est impossible à mettre en place.
Ok.
Donc après, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Ben, c'est de faire des vins qui soient plus axés autour de la GD, mais plutôt axés autour des. Enfin, on se dit beaucoup. Tavel se dit beaucoup comme étant un rosé de gastronomie. C'est un peu la phrase que dit chaque vigneron et que vous diront tous les vignerons que vous verrez. Mais moi, pour moi, à l'heure actuelle, on fait pas des vins de gastronomie. On fait des vins qui sont globalement orientés autour de la grande surface. Alors, je dis pas ça pour. C'est pas le cas de tous les vignerons, mais sûr, il y a des domaines qui travaillent très bien et qui font des très bons Tavel, mais de manière générale sur l'appellation. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils se remettront jamais en question et on y arrive. Enfin, et ils arrivent. Et aussi, ce qui va dans leur sens, c'est qu'ils arrivent à un stade où ils ont peut-être pas forcément de repreneurs ou ils ont pas envie que leurs enfants reprennent parce que c'est des métiers qui sont compliqués, surtout à l'heure actuelle. Donc en fait. Dans 10 ans, 5 ans, ils sont à la retraite. Pourquoi est-ce qu'ils reverraient tout en question alors qu'ils pourraient très bien laisser couler pendant 10 ans et après partir à la retraite? Donc, je leur jette pas la pierre. Mais voilà, ce qui fait que de manière générale, sur l'appellation, c'est compliqué pour qu'il y ait un... Il y a des nouvelles générations qui arrivent. Hein. Il y a une nouvelle génération qui émet un changement, qui travaille différemment, qui fait un peu plus confiance au terroir, au raisin. Mais en termes de volume, ça représente rien. Bon, mais ça veut dire qu'il y en a une. Il y a une volonté. Et il y en a de plus en plus chaque année. Mais bon, il faudrait qu'il y en ait vraiment beaucoup plus.
Bon, bah le message est passé. Alors, si vous cherchez à acheter des vignes, apparemment, il y a une population vieillissante qui va se séparer de ces terres progressivement. Et donc, si vous cherchez un endroit pour vous installer, il semblerait qu'il y ait possibilité de le faire ici.
Ah, Tavel, ouais, franchement. Ouais. Non, je pense, enfin, de manière générale, c'est ce qui va se passer dans toute la vallée du Rhône. Il y a beaucoup de départs à la retraite avec... De manière générale, je pense même dans la viticulture en France, il y aura beaucoup de départs à retraite qui seront pas compensés. Donc je pense que des jeunes qui veulent se lancer en plus l'avantage de Tavel, comme je disais, c'est qu'on a une histoire, quoi. Quand on se pointe dans un caviste, parce que moi à côté on fait aussi l'appellation l'Irak, je vois.
Ouais.
Et nous des fois on fait des salons avec des cavistes, les mecs ils arrivent, bon, ils vendent pas de Tavel parce que le produit leur correspond pas, mais ils connaissent l'Irak, ils nous disent je connais pas, où est-ce que c'est sur la carte. Donc c'est déjà qu'on a, c'est déjà très bien,
ouais,
que
c'est déjà un premier stade. Ouais,
déjà
ouais.
Le premier bon point, c'est que voilà, Tavelme, c'est connu. Donc à partir du moment où on fait du bon vin, on a déjà cette notoriété qui est là, et ça peut aller beaucoup plus vite que sur des appellations qui sont pas connues.
Qui sont inconnues, ouais, ou qui sont un peu loin de. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je te propose du coup que tu nous présentes les deux bouteilles que t'as sélectionnées,
ouais,
pour nous les faire découvrir. Donc le domaine Lafond. Le Tavel, alors rosé du coup, mais t'aimes pas trop le, tu veux que je dise rouge clair?
Alors du coup, ça c'est le Tavel classique qu'on fait au domaine. On est sur un Grenache Syrah Cinsault. Donc moi, à mon sens, il est encore trop clair. Chaque okay. année, on essaie d'augmenter la couleur. Après, on peut pas.
Comment tu fais ça? Techniquement, tu laisses
les temps de macération plus longs.
La macération. Ouais. Okay.
Globalement, en fait, ça peut aller de quelques heures en fonction des cépages. Par exemple, on fait un 100% Syrah dans le pressoir. En quelques heures, ça peut être hyper foncé. Okay. Par contre, quand on fait un 100% Grenache ou un 100% Cinsault, là, il va falloir un peu plus attendre. Alors nous, on fait jamais de monocépage. On fait toujours des co-fermentations. Du coup, là, globalement, il y a toujours un peu de Syrah dans les pressoirs pour justement amener de la couleur. On est sur des temps de macération qui vont être aux alentours de 12-16 heures. On essaie chaque année de faire un peu plus. On pourrait faire beaucoup plus d'une année sur l'autre, mais le problème, c'est qu'on passerait de... Il y a quelques années, quand on s'est mis à faire ce changement avec mon frère, on serait passé d'un vin à la limite, voilà, du... Parce que là, à l'heure actuelle, les vignerons, ils sont à la limite de l'intensité colorante en termes de bas. Mmh. Pour être le plus clair possible, mais on serait passé de ça à quelque chose de beaucoup beaucoup plus clair. Donc les clients actuels n'auraient jamais suivi.
Ils n'auraient pas compris.
Parce qu'ils n'auraient pas compris. Alors que là, chaque année, on va un peu plus loin dans la macération, on va un peu plus loin, on gagne en aromatique, et au final, on se rend compte que en fait, ils préfèrent.
Tu vas avoir un dégradé, si tu regardes tes 15 dernières années, tu dois avoir un dégradé de,
ouais,
de rouge.
Ça fait 4 ans qu'on a commencé à faire ça.
Ans, ouais, okay.
Et c'est vrai que la première année, c'était... Enfin bon, si, ça rentrait dans les normes, mais pour moi, c'était beaucoup trop clair.
Hmm.
C'est pas qu'une question de couleur. La couleur, c'est important, mais qui dit couleur dit temps de macération, mais dit aussi...
Du coup, contact avec les peaux.
Avec les peaux, ouais. Et puis qui dit que ben, forcément, si je fais des macérations de 16 heures alors que au lieu d'en faire 4, ben, forcément, les raisins que je mets dans mon pressoir, ils doivent être de meilleure qualité.
Hmm.
Et du coup, ça veut dire aussi que quand je vinifie, c'est pas pour vendre mon Tavel au janvier de la même année, mais c'est plutôt pour commencer à le commercialiser vers le mois de mai. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble. C'est facile de dire, bah tiens, je fais un rosé de gastronomie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Je veux dire, c'est pas uniquement le fait de dire, bah tiens, regardez, il est foncé, donc forcément, il est gastronomie. Non, non, c'est qu'il y a tout un ensemble de pratiques. Il y a plein de maillons à la chaîne, en fait, qui font que, à la fin, ton vin, c'est un vin de table ou il est pas. Voilà, c'est plutôt, moi, dans cette réflexion, c'est, parce qu'il y en a, il y a des vignerons qui font, pas forcément sur Tavel, mais ils font qu'un seul maillon de la chaîne et ils disent, oh, bah tiens, du coup, mon vin, bah c'est un vin de gastronomie. Mais en fait,
ouais.
Non, c'est, il y a toute une réflexion à avoir et ça va de la parcelle jusqu'à la bouteille, quoi.
Donc du coup, il y a des temps de macération un peu plus longs et ensuite sur le reste de la vinification et l'élevage.
Alors après, sur le reste de la vinification, on est sur des fermentations qu'on fait monter jusqu'à 20 degrés, alors qu'avant on faisait 18. Donc voilà, qui dit aussi une fermentation un peu plus haute en température dit qu'on va pas du tout extraire les mêmes précurseurs aromatiques. Donc on va avoir des choses un peu plus ça va être un peu plus costaud, hein, concrètement, un peu plus puissant. Et après, en élevage, on est sur de la cuvinox.
Okay.
L'entièreté, par contre, de la fermentation à l'élevage est en cuvinox.
Évidemment, à déguster avec modération.
Ah oui, moi je l'ai amené par réflexe, mais
toujours.
C'est pas.
Alors c'est vrai que sur la puissance, je te rejoins, c'est assez différent. Alors on n'a pas dégusté énormément de Tavel jusqu'à présent. Je pense que tu vas être le quatrième ou cinquième qu'on déguste. Mais c'est vrai que sur la puissance, je te rejoins. Enfin, j'ai pas l'impression de boire un rosé, tu vois. Enfin, entre
guillemets. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est pas un rosé.
Ouais. Oui, exactement, exactement. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais. Hein,
et si on regarde historiquement dans les textes de l'époque, à l'époque où il y avait les papes, par exemple à Avignon, il y avait deux catégories de vins qui étaient faits aux alentours d'Avignon pour les papes. Il y avait le vinum clarum, donc c'était le vin clair qui était fait notamment à Tavel. Et après il y avait le vin, on va dire un peu plus foncé, un peu plus haut de gamme, qui était fait aux alentours de Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà, c'était pour deux occasions différentes. C'était un peu le vin de tous les jours, le Vinum Clarum, et après le vin qui venait de Châteauneuf-du-Pape, c'était un vin un peu plus puissant pour les repas. Mais voilà, on était considéré comme un Vinum Clarum, c'est le vin clair. Mais c'est qu'à partir des années 80 que là, c'est depuis 1936 qu'on est catégorisé comme un rosé. Mais c'est que depuis les années 80 où là, il y a eu vraiment ce déclic. Grande surface, bocage des fermentations malolactiques, tout est levuré, tout est enzymé et on y va et voilà quoi.
C'est clair.
Et le problème c'est que d'un millésime A à un millésime B à un millésime C, en fait on voit même pas les différences. Et pour moi l'effet millésime, c'est presque, quand on voit l'effet millésime, c'est presque de se dire qu'en fait le vigneron, il travaille bien, parce qu'au final faire le même vin chaque année, enfin moi je sais qu'à chaque fois quand on est en dégustation et que j'en parle, je fais toujours la comparaison. Autant aller bosser à Ikea et on fait les mêmes vins.
Faire enfin, des pommes, quoi. Enfin,
j'ai rien contre Ikea, mais je veux dire, c'est des modèles qui sont complètement différents de ce qu'on veut faire. On est une toute petite appellation, on pourrait faire du vin de niche, comme on dit. Ben non, on fait de la standardisation et je trouve que c'est pas... Même nous, en tant que vignerons, je trouve que c'est pas excitant, humainement, quoi.
Alors du coup, là, ce vin... Donc vin de gastronomie, tu disais un peu plus tôt. Avec quoi est-ce que tu l'accorderais ?
Ben, l'avantage de Tavel en plus, et c'est quelque chose que quand on va dans les bistrots parisiens ou les choses comme ça là, qui vendent des on va dire des Tavel, mais qui sont vinifiés comme étant des rouges clairs, l'avantage c'est que ça passe sur tout. En fait, justement, l'avantage c'est qu'on est sur un vin qui est suffisamment aromatique, mais qui a pas la puissance et qui a pas la concentration des rouges. Donc en fait, ça peut aller, c'est pas du tout réducteur, mais ça peut aller de la pizza à de la viande blanche. Alors après, c'est sûr, les plats en sauce, les trucs hyper puissants, où il faut un vin rouge, là non, ça passera pas. Mais globalement, de l'apéritif jusqu'à un plat un peu léger, ça peut passer. Et sur des desserts à base de chocolat, ça passe super bien. Et c'est ça qui est bien avec Tavel, c'est qu'en fait, on peut faire presque le repas dessus. Chose qu'on peut pas faire sur des vins rouges.
Moi, je le voyais bien avec un poisson grillé en parlant ensemble, un truc comme ça. Je pense que c'est un truc
sympa. Et c'est la force de Tavel, justement. Ouais. C'est qu'on a... Moi, je vois les quelques retours des restaurateurs et qui en bossent. Ils sont contents parce qu'ils peuvent le proposer au verre. Et qui dit proposer un verre au verre, c'est que du coup, c'est un vin qui passe sur tout. Et c'est ça, l'avantage de Tavel. Et bon, après, voilà, c'est... On va revenir dans le débat, mais voilà, c'est... Moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on rate. Alors qu'en fait, c'est hyper plaisant à faire un vin qui s'accorde à peu près avec tout, qui a de la matière mais pas trop. En plus, à l'heure actuelle, c'est hyper... Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, il fait tellement chaud, on n'a plus envie de boire des rouges qui font 15 degrés parce que il fait 45 degrés à l'ombre. C'est trop puissant, quoi. Alors qu'un Tavel, ça fait 13,5-14. Ben voilà, je veux dire, ça passe tout seul. Il y a un peu d'aromatique, un peu de tanin, mais pas trop. Voilà, c'est... Moi, je vois les gens qui sont consommateurs de Tavel à l'heure actuelle, c'est des gens qui n'aiment pas le rosé.
Ok.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent au domaine et nous disent « je vais goûter les rouges ». On leur dit « non, vous pouvez goûter le Tavel d'abord ». « Ah non, je bois jamais de rosé ». On leur dit « mais justement, si vous buvez jamais de rosé, goûtez le Tavel ».
Ouais.
Et à chaque fois, ils adorent. Pour moi, c'est vraiment caractéristique que les gens qui boivent du Tavel, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, c'est des gens qui n'aiment pas le rosé. C'est caractéristique. Ça veut dire que du coup, on n'est pas à notre place.
C'est clair. Tu devrais leur faire une dégustation de ça dans un verre noir ou un truc comme ça, et tu leur dis je vous en fais goûter en premier, comme ça, ils voient pas la couleur et tu vois.
C'est vrai que ça pourrait être marrant. Ça pourrait. Je sais qu'on a une. Avant, on avait une cuvée en Tavel qu'on passait en barrique. Mais là, depuis de millésime 2020, on m'en a arrêté parce qu'elle nous correspondait plus. Mais c'était vraiment une aromatique type rouge et quand on le faisait goûter à l'aveugle, des fois pour rigoler, même à des gens qui connaissent un peu. Il y en a très très peu qui ont mis rosé, quoi. Il y en a beaucoup qui ont mis blanc.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas l'aromatique, il y a pas les tanins du rouge.
Mais c'est le bois.
Y a un peu le côté vanillé, donc forcément, si c'est pas rouge, ils se disent c'est blanc vu qu'il y a du bois. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis du rouge, mais très peu ont mis rosé. Donc c'est assez marrant.
Ouais, carrément, carrément. Mais je pense que c'est des vins qui s'y prêtent bien parce que je trouve que c'est vraiment une aromatique qui est très différente de ce que tu peux avoir l'habitude de goûter par ailleurs.
Bah
et
oui.
Moi, je t'avoue que à l'aveugle des trucs comme ça, je pense que je... Bon, maintenant, j'espère que je me tromperai moins, mais j'aurais du mal à les situer naturellement.
Ah bah oui, non, mais moi aussi, je me trompe. Hein. Ouais. Des fois, dans des repas, je sais que ma mère, elle aime bien faire des bouteilles à l'aveugle comme ça. Et des fois, elle nous fait goûter des vins du domaine, on met des trucs complètement ailleurs, quoi.
Ça, c'est marrant, ça.
Ouais, ouais, c'est vraiment...
du domaine au milieu
ah
du
ouais,
truc,
des fois,
en mode.
On fait un vin du domaine. Bon, après, généralement, c'est des vieux millésimes,
ouais.
Donc il y a un peu d'évolution, mais c'est vrai que c'est marrant, on se fait avoir
ouais,
beaucoup de fois. Mais c'est bien, on en rigole, mais au moins, ça se dit, ouais, tiens, finalement, ça goûte comme ça.
Voilà. C'est clair. C'est clair. Tu veux qu'on passe au deuxième? La relève?
Ouais.
La relève, c'est toi?
Alors, la relève, c'est mon frère.
C'est ton frère à toi. Pardon. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à cette couleur dans la bouteille. Comme ça, je pensais que c'était en rouge beaucoup plus foncé que ça.
Ouais, alors en fait, la relève, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est là, du coup, la nouvelle génération. Alors, on fait ça. Alors, avant, c'était plus. On a commencé en 2020. En 2020, on a fait 400 bouteilles. Donc, c'était plus comme ça pour s'amuser,
copains,
ouais. Et bon, on a trouvé qu'il y avait des gens qui aimaient bien, des restaurateurs, des cavistes, des gens qui mettent la carte dans la catégorie des rouges, voilà, des gens qui connaissent un peu le vin, quoi. Et on sent que bah, les gens, ils en demandent. Alors après, c'est sûr, ça représente des volumes qui sont pas énormes, hein. Mais déjà en termes de nous, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir une réflexion plus globale sur le domaine, parce que c'est des façons de travailler complètement différentes. En fait, du coup, là, on est sur un vin. Alors, c'est pas forcément pour mettre une étiquette, mais on est totalement sans intrants.
Ok.
Voilà. Alors, c'est pas pour dire. Moi, j'ai horreur de mettre des étiquettes sur les vins. Alors, par exemple, tout le domaine est en bio, mais on le met sur la contre. On le met jamais sur l'étiquette, parce que j'ai horreur de mettre des étiquettes sur les. Enfin, d'afficher des labels ou, par exemple, de dire, bah tiens, ce vin il est bio, donc il est bon. Ce vin il est en biodynamie, donc il est bon. Moi, c'est pas du tout quelque chose. Moi, je fais plutôt l'inverse. D'abord, je regarde le vigneron et voilà. Mais donc, du coup, en fait, c'est pas forcément pour dire on fait un vin sans intrants ou un vin, on va dire, nature. C'est plus qu'en fait, on vinifie comme le faisait le grand-père, tout simplement. Sauf qu'en fait, on a avec les moyens techniques et la connaissance vignoble qu'on a à l'heure actuelle, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on utilise une bouteille foncée. Parce qu'alors, avant, quand mon grand-père bossait, il n'y avait pas la bouteille syndicale. Donc du coup, il bossait en bourguignonne, ce qui fait qu'on a repris une bourguignonne. Et donc, en fait, on a appelé ça la relève, mais c'est assez, c'est
presque un hommage historique.
Ouais, c'est plus pour dire, c'est la nouvelle génération qui travaille comme l'ancienne. Et alors, c'est pas du tout pour déconstruire ce qu'a fait notre père, parce que du coup, il a fait un travail, monumental. Mais voilà, nous, on s'est dit avec mon frère, mais tiens. On va faire un peu des vins sans artifice, sans toutes ces pratiques chimiques et physiques qu'on peut connaître. Donc, on va faire confiance au raisin, tout simplement. Ce qui fait que là, du coup, on est sur une macération. Alors, tout à l'heure, on était sur une macération de 12 à 16 heures. Là, on est sur une macération. Ça varie en fonction des pressoirs entre 3 et 5 jours.
OK.
Voilà. Donc, c'est bien plus poussé.
Ouais, carrément.
Alors, généralement, c'est à la limite de partir en fermentation dans le pressoir. Donc, voilà, on prend des risques. Mais c'est assez sympa parce que on est sur une aromatique qui est complètement différente. On est sur un grenache syrah, donc on a à peu près les mêmes cépages que le précédent sans le cinceau. Mais voilà, c'est nous quand on le vinifie, et même étant donné qu'on est sur une macération de 3 à 5 jours, on le vinifie comme un rouge presque. Et donc forcément en bouche, on se retrouve avec plus de matière, plus de concentration. Mais il n'y a pas les tanins du rouge, ce qui fait que ça, c'est pas lourd.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est ultra soyeux. C'est d'une douceur dans la bouche.
Et il y a aussi un truc qu'on a remarqué. Le fait de... Je sais pas quel changement de pratique a fait ça, mais on a une salinité qui arrive en fin de bouche, qui est hyper agréable et ça donne envie d'y revenir.
tu me prends la main dans le sac.
Et une amertume aussi. Une amertume qui est hyper agréable et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Alors peut-être que du coup les pratiques qu'on faisait bloquaient un peu ces aromatiques là, mais ouais, c'est vraiment c'est des bonnes surprises, on va dire.
Et donc ça, donc t'en as fait 400 bouteilles la première année.
Ouais.
Ça, c'est la deuxième 2021.
Ouais.
Tu montes un peu justement la production de ça?
Ouais, on en monte un peu. Après, ça reste sur des volumes assez anecdotiques. Là, on en a fait à peu près 3000. Voilà, c'est par rapport à la taille du domaine, ça reste assez petit. Mais l'idée, voilà, c'est de même si c'est des petits volumes, nous, en termes de cave, ça nous amène une réflexion qui est plutôt globale. Et du coup aussi, ça nous amène une réflexion en termes de vigne, qui est beaucoup plus intéressante. Du coup, on se pose d'autres questions, on réfléchit différemment. Et en fait, même, je dirais presque qu'en fait, on voit le Tavel sous un œil nouveau. Parce que là, concrètement, ce qu'on a goûté tout à l'heure, c'est un 2022, alors que là, on est sur un 2021. Et en fait, l'appellation Tavel, vu qu'on est catégorisé dans les rosés, et c'est pour moi le principal fléau d'être en rosé, c'est qu'en fait, on est du coup un vin millésimé. Là, une fois qu'on a passé le 31 août, le millésime de l'année, les gens, ils en veulent plus. Ils veulent déjà le nouveau millésime. Moi, je sais que des fois, presque, on a des demandes en décembre ou en janvier du millésime qu'on vient à peine de vendanger. Et en fait, on a beau leur dire que Tavel, non, on est en rosé de gastronomie. Donc, en fait, qui dit rosé de gastronomie dit qu'on fait des vinifs qui sont adaptés pour.
Mmh.
Et donc, normalement...
Qui prennent un peu plus de temps, qui nécessitent un peu d'élevage aussi.
Exactement. Normalement, un rosé... Enfin, je veux dire, de gastronomie qui de tel quel, ça devrait se commercialiser au plus tôt en mars, quoi. Nous, je sais que par exemple, la mise en bouteille de ce vin, on l'a fait après Pâques.
Okay.
Parce que le grand-père disait toujours qu'après Pâques, ça marchait mieux. Alors, c'est des croyances, c'est des. Voilà, on a voulu un peu reprendre ce rituel, donc après Pâques. Et là, par contre, la commercialisation s'est faite le 1er janvier de l'année suivante.
Ah oui, waouh!
Donc en fait, l'idée, c'est de sortir de ce côté millésimé.
Par défaut, ils ont au moins un an.
Par défaut, ils ont au moins un an. Parce que justement, c'est pareil. Le Tavel, une fois qu'il a passé deux hivers, bien sûr, quand il est vinifié en adéquation, mais quand il a passé deux hivers, c'est là où il prend toute son envergure. Et justement, le vin, il s'est bien reposé en bouteille. On l'a vinifié comme un rouge clair. Donc du coup, c'est là où il prend toute son envergure. Et moi, je vois même des Tavels classiques passé le deuxième hiver, ils sont excellents. Et le problème, c'est que quand on essaye d'en parler aux clients,
ouais,
ils ouvrent les nouveaux millésimes.
Ouais.
Et en plus, ils ont même pas cette envie de vouloir essayer parce qu'ils m'ont dit, mais moi, je veux bien essayer. On leur fait goûter. Ils disent, mais j'aime, c'est bon. Mais le problème, c'est que mon client à moi, il achètera jamais. Donc en fait, si jamais je t'achète 10 cartons, ils vont me rester sur les bras.
Ah, c'est fou ça.
Donc,
parce que moi j'aurais plutôt tendance à te faire confiance justement. Si toi tu me dis,
Et ouais, mais le problème, c'est
achète-moi ça, je serais en mode.
Le client final,
problème.
Lui, ouais. On est catégorisé comme un rosé.
Ouais, ok.
Et donc, qui dit rosé dit.
Dégustation immédiate.
Dégustation immédiate. Ouais. Et une fois qu'on a passé l'année, du coup, ça.
C'est plus bon.
Mais c'est là où du coup on est pris dans l'engrenage des rosés, alors que si on est classé comme un rouge clair, il n'y a pas de souci quoi. Les gens, ils acceptent totalement. Et même le fait d'avoir de l'année, c'est même un avantage, parce que du coup, le vin est prêt à boire.
C'est clair. Et donc, du coup, toi, justement, t'as fait des dégustations de Tavel un peu ancien ?
Alors, de Tavel vraiment ancien, j'en ai pas
ancien,
fait.
Ancien, genre de quelques années au moins.
Mais là, par exemple, il y a quelques temps, on a goûté des Tavel des années 90.
Ouais, donc c'est déjà pas
mal. Et franchement, déjà, ça goûte super bien. Mais à l'époque, on avait un peu moins d'artifice et du coup on faisait déjà la couleur quand on la sert dans la bouteille, enfin dans le verre, quand la bouteille a bien été conservée et que c'est pas oxydé à fond, du coup on n'est pas sur cette teinte orangée, on est toujours sur un rouge.
Ok.
Et ça c'est quelque chose qui est assez marquant parce que du coup quand on goûte, bah c'est bon. Même l'anecdote, mon grand-père quand il s'est marié, c'était dans les années 55-60, il avait un Tavel. Donc pour le repas de son mariage, il avait un Tavel qui avait 12 ans, un Tavel qui avait 7 ans et un Tavel qui avait 5 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien en dessous.
Ouais.
C'est-à-dire que pour eux, le Tavel, le consommer un Tavel de l'année, je pense que c'était une hérésie.
Mmh. Ouais, c'était...
Donc et en fait, on aurait dû largement continuer là-dedans. Et à cette époque, d'ailleurs, même si on pour parler par exemple le prix, le Tavel se vendait plus cher que le Pommard.
Ah oui.
des choses comme ça, ou, enfin, c'était vraiment,
Ah oui, donc c'était fast, ouais, parce que.
Ah ouais, c'était, bah d'ailleurs, là, quand on regarde la carte, des vestides, avant les années 80, et donc les terroirs qui sont en rouge,
ouais.
Je dirais que la surface réelle qu'il y avait avant les années 80, elle doit être de l'ordre de 30% de ce qu'il y a là. Et en fait, Tavel, ça marchait tellement bien que les vignerons, ils ont gratté la colline. Et donc, du coup, ils ont, on s'est retrouvé avec beaucoup de surface. Mais le problème maintenant, c'est que ces vignes qui sont en haut de coteaux, qui sont sur 5 cm de terre, et après il y a la roche mère, avec les années sèches qu'on se prend, ben, elles mûrissent jamais.
Mmh.
Donc forcément, si on n'a jamais planté de vignes à cet endroit-là, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Sauf que du coup, on en a planté. Et forcément, ça marche moins bien.
Ouais, c'est clair. On a un appareil photo qui est un peu trop chauffé, mais c'est pas grave parce qu'on a un deuxième plan, on a tout prévu. qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère? Moi, c'est une question que je me pose. J'ai un petit frère. Je sais pas combien de différence d'âge t'as. Moi, j'ai 9 ans.
On a 2 ans.
Ah ouais, donc on est pas trop dans le même cas. Moi, j'ai 9 ans d'écart avec mon petit frère. Ouais. Donc, si tu veux, là, il est encore en train d'étudier. Oui, il a son bac, mais il est encore en train d'étudier. Mais un jour, je pense qu'un jour, j'aimerais bien travailler avec lui. Enfin, je pense que ça ferait partie des trucs qui me feraient vraiment bien kiffer. Qu'est-ce que ça fait pour toi de travailler avec ton frère?
Moi, je trouve c'est génial. Hein. Bah après, en fait, c'est génial dans le sens où on veut tous les deux avancer dans la même direction. On veut tous les deux à peu près, on a à peu près la même façon de voir les choses sur le vin, même de manière générale. Et après, le domaine il est tellement grand, il y a tellement de travail que du coup, en fait, on se marche pas dessus. Lui, il est plutôt sur la partie vigne et moi plutôt sur la partie cave. Donc en fait, on se marche pas dessus. On fait des salons ensemble, tout ce qui est la partie commerciale, ça on le fait ensemble, on prend les décisions ensemble. Après, moi je pense que c'est même un point positif d'être plusieurs parce que du coup ça amène du poids quand on veut aller dans une direction et qu'au final au début on n'était pas trop suivi. Ça amène du poids d'être plusieurs. Et puis ça aussi ça permet de déléguer, enfin pas de déléguer mais on peut se reposer.
Mettre en confiance un peu.
Ouais, on peut se reposer sur quelqu'un. Par exemple, je sais que du coup, la partie vigne, enfin, le chef de culture, il est hyper compétent, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais que la partie vigne, il n'y aura aucun souci, quoi. Parce que il y a le chef de culture et il y a mon frère, donc les deux réunis, me fait aucun souci, quoi. Et en même temps, je sais que ça ira aussi dans le sens qu'on veut avoir, quoi. On pousse tous les deux dans la même direction. Non, ça pour le coup. Bon après, nous, vu qu'on est un domaine avec un peu de surface, on a quand même suffisamment de travail pour pas se marcher dessus.
Vous avez combien d'hectares là, du coup?
On en a 90.
Ah oui, c'est grand, ouais, effectivement.
Donc du coup, voilà.
Ouais, il y a de la place, 90 hectares. Voilà, vous pouvez ne pas vous croiser pendant une journée.
Dit qu'on se marche pas dessus, ouais. Parce que après, c'est vrai qu'on travaille du coup pas forcément tout le temps ensemble,
mais
tous les jours, on se voit, quoi. On discute.
C'est peut-être la bonne distance aussi pour pas s'embrouiller et en même temps travailler ensemble, tu vois, parce que peut-être que c'était un truc qui est
après c'est
toujours à deux en train de faire les mêmes trucs et tout, je pense que tu finis par
Ça dépend après du caractère, mais c'est vrai que il y a des domaines plus petits où ils sont deux à bosser, oui, des fois ça peut chauffer, mais je sais même pas si ça avait été le cas, est-ce que ça se passerait comme ça, je pense pas honnêtement. Parce qu'on a vraiment exactement la même vision
ouais.
Des choses. Après, l'avantage aussi d'être plusieurs, moi je trouve, c'est que du coup, on n'a jamais raison. Parce que quand on est seul, on a tout le temps raison. Donc le fait d'être à plusieurs, on est trois avec le père. Mais le fait d'être à plusieurs, ça permet de toujours avoir un autre regard. Alors même si on veut tous avancer dans la même direction, l'objectif final, il est le même pour tous, mais des fois, on n'a pas forcément le même chemin. Et ce qui est bien, c'est que des fois, moi, je sais pas, je pense à un truc à mettre en place. Mon frère, il me dit non, ça c'est complètement farfelu, on le fait pas. Enfin, voilà, ou moi, mon père. Donc, c'est bien aussi d'être à plusieurs parce que du coup, ça permet d'avoir un esprit critique sur les prises de décision qui sont faites.
C'est clair. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors pour la suite?
Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter pour la suite? Je dirais que l'appellation Tavel se réveille. Et qu'il y ait de nouveau une envie de faire des vins sympas dans l'appellation. Après, pour le domaine, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Que ça continue de marcher, que Mère Nature nous épargne encore quelques années. Parce que c'est vrai que on a de la chance à Tavel, on est sur un couloir qui est pas mal protégé. Mais du coup maintenant c'est en train de se retourner contre nous dans le sens où on est protégé des nuages, du coup de la grêle, ou du gel parce qu'on est quand même pas très on gèle pas trop ici, mais du coup il y a des années où c'est hyper
lui
sec.
Il fait chaud, ok.
Ouais.
C'est ton frère?
Non, ah c'est chef de câble.
Ok. Ok, ça roule. Bah écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et qu'on n'a pas abordé ensemble?
Bah moi, de toute façon, le sujet qui me tient à cœur, c'est Tavel. Donc, j'ai pas forcément de. Non, comme ça, je pense qu'on a parlé de tout.
Top. Bah écoute, parfait. Dans ce cas, il me reste trois questions à te poser qui sont assez traditionnelles. La première, c'est est-ce que t'as une dégustation coup de cœur récente?
Une dégustation coup de cœur récente. Qu'est-ce qui m'a fait me poser des questions? Parce que moi, du coup, mes dégustations coup de cœur, c'est les vins qui me font poser des questions. Ouais. Il y a par exemple, alors j'en aurai deux. Il y a par exemple un blanc de macération du domaine Mada dans le Roussillon, qui est arrivé à faire des trucs hyper frais pour des blancs de macération à un degré qui est tout à fait correct. Et du coup, ça me fait dire que ouais, ça peut être intéressant. Parce que nous, des blancs de macération, on n'en a jamais fait. Ça me peut me dire que ça peut être intéressant à mettre en place. Après, un deuxième coup de cœur, je n'aurais plus vous citer le domaine, mais c'était un Alsace rouge. C'était un pinot noir, qu'on avait bu dans un restaurant, et c'était super bon. Il y avait une bonne concentration, un bon équilibre. Et c'était un vin qui était à 12 degrés, quoi.
Ouais,
et donc, c'est vrai que...
Le Pinot Noir en Alsace, c'est un peu un truc... Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y en a quelques-uns qui le font très, très bien.
Ouais, ouais. Alors, quand c'est mal fait, le Pinot... Parce qu'en Bourgogne, des Pinots mal faits...
Il y en a aussi. Hein.
Il y en a une paire, mais quand c'est bien fait, le Pinot, c'est super. Hein.
Ouais, c'est clair.
C'est vraiment... Alors après, c'est vrai que ça va être presque la couleur du Tavel qu'on devrait avoir. Parce que c'est un cépage qui est très peu...
Ouais, c'est qui ça va être très clair.
Qui a une faible couleur. Mais qu'est-ce que c'était bon. Et c'est vrai que du coup, on se pose des questions. On se dit, putain, mais il y a des gens qui arrivent à faire des choses avec une bonne concentration. Parce que nous, le problème qu'on a dans le sud de la France, c'est qu'on commence à avoir des degrés qui explosent assez facilement.
Parce qu'il fait chaud. Du coup,
parce
ça,
qu'il fait chaud.
Ça se gorge de...
Parce qu'il fait chaud, les raisins se dessèchent. Et du coup, le ratio sucre-eau... joue en notre défaveur. Et c'est vrai que de goûter des trucs qui sont faits à bonne maturité, où c'est pas vert, où il y a quand même de l'aromatique, et qui sont pas forts en alcool, hein, on se dit, ah ouais, ils y arrivent, quoi. Et si eux, ils y arrivent, parce que bon, l'Alsace, ça reste un climat très sec. Mulhouse et Montpellier, c'est les deux villes les plus sèches de France de manière générale. Et Domaine Mada en Roussillon, il y a aussi un climat hyper sec. Donc en fait, on se dit, mais si eux y arrivent, pourquoi pas nous?
Pourquoi pas moi, ouais.
Et c'est vrai que, bon, après, nous, on a des cépages qui sont différents. Le Grenache, en un clin d'œil, il monte à 14. Voilà, il faut penser des pratiques, parce que je pense que le consommateur, il en a marre de boire des gros degrés, et il faut revoir nos pratiques pour les baisser. Et moi, je pense que, enfin, moi, j'attribue mes dégustations coup de cœur à des dégustations qui me font changer d'avis, ou qui me font prendre conscience des choses. Sinon, après, dans des dégustations coup de cœur en termes de qualité, des Beaujolais, forcément, après, je sais que ma compagne, elle adore Côte du Puy de chez Foyard, donc voilà, ça fait partie.
C'est très
des,
bon aussi ça.
Voilà, ouais. Ça fait partie des classiques. Mais bon, si je dis ça, je sors pas des sentiers battus. Donc,
c'est un classique, mais
c'est un peu facile
qui est
de
très,
dire.
Très efficace,
voilà. Mais sinon, voilà, il y a ça. Après.
J'aimerais beaucoup aller le voir d'ailleurs.
Ouais, je pense que ça peut être.
Ouais. Ça fait partie des personnes qu'il faut que j'envoie un message.
Ouais. Moi, dans le sud de la France, des vignerons que j'aimerais bien aller voir, il y a par exemple Domaine Richaud, Marcel Richaud, ouais. Quoi. Parce que il est sur des, il est dans la même région que nous. Il arrive à faire des super vins, quoi. Des super vins qui sont pas forcément trop forts en alcool, pas forcément avec beaucoup d'intrants. Enfin, il se pose des bonnes questions. Après, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est toujours pour moi le vin, c'est un moment d'échange. C'est un moment plus que de dire voilà, je goûte un vin, c'est plutôt un échange avec un vigneron qui est en face. Et pour moi, c'est un échange de pratiques, un échange et c'est vrai que j'aime bien les vignerons, il y en a plusieurs dans le coin avec qui on peut discuter, avec qui on peut vraiment aller plus loin dans les réflexions plutôt que avoir des discussions de simples vignerons à dire oui, moi je fais ça, mais sans forcément personne dire non, je veux pas dévoiler ce que je fais, sinon l'autre il pourrait le prendre et du coup il va faire non, en fait pas du tout. Et du coup il y a des vignerons à qui on dévoile totalement les pratiques, mais c'est hyper enrichissant.
C'est
moi
clair.
C'est plutôt ces dégustations coup de cœur, je les associe plutôt à ces moments-là.
À ces moments-là, ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as un livre sur le vin, moi, quand on est?
Un livre sur le vin, ben, je dirais, le dernier livre, là, celle qui a été meilleure sommelière de France, hein.
De Pascaline Le Pelletier?
Ouais.
Ouais. Ok. Alors, j'ai oublié le nom de son livre, mais je l'ai pas encore acheté. Pascaline, si tu nous écoutes.
C'est Mille et une vignes.
C'est possible.
Le nom, ben, je l'ai chez moi, je l'ai, je sais, j'ai plus le, je suis, je l'ai pas encore fini parce que c'est un sacré bouquin et il faut presque ne pas le lire. Genre, c'est pas le livre qu'on lit avant de s'endormir, quoi. Il faut être
concentré.
Faut être réveillé et, parce qu'elle est allée chercher loin dans l'histoire et c'est vrai qu'on apprend plein de trucs et moi, je trouve que c'est aussi toujours intéressant de connaître l'histoire. Mon grand-père disait toujours, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je trouve que c'est hyper intéressant de savoir pourquoi tel cépage est arrivé là. Tel cépage et parce qu'elle a une grosse recherche d'ampélographie, c'est assez impressionnant. Moi, c'est vraiment un livre que j'adore bouquiner.
Ça marche. Compte sur moi pour l'acheter. Je l'ai pas encore fait, donc c'est pas bien. D'ailleurs, Pascaline est passée dans ce podcast. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer il y a pas très longtemps. Donc, je sais pas si elle écoute depuis, mais si t'écoutes Pascaline, on t'embrasse. Et pour les personnes qui ne sont pas allées écouter cet épisode, je vous le recommande parce que c'était vraiment un épisode ultra agréable, marquant pour moi. Mais en tout cas, elle était d'une gentillesse incroyable et surtout, j'ai appris plein de trucs avec elle. Et je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi si vous nous écoutez. Je crois que c'est l'épisode 70, 71, quelque chose comme ça. On vérifiera, le lien sera dans la description, évidemment. Et enfin, alors, tiens, un tout petit peu répondu, mais je vais quand même la poser, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer?
La prochaine personne que... En restant sur l'appellation Tavel ou de manière générale
Dans le vin, globalement.
Dans le vin, globalement. Oula, c'est vrai que c'est...
Que tu me recommandes, en tout cas, d'interviewer.
Pour rester sur l'appellation de Tavel, je dirais quelqu'un de la famille Pfifferling.
Ok.
Domaine de Langlore. Là, au moins, vous allez voir un autre côté de l'appellation de Tavel.
Ok, ça roule. Eh ben, compte sur moi pour essayer, ouais. Pardon, je voulais rajouter un truc.
D'ailleurs, si vous allez à la Courtille, ils y sont assez souvent.
Ok. Et alors, il faut que je regarde avant sur Google Images à quoi ils ressemblent pour essayer de les croiser. Mais
L'Anglore, c'est un peu le premier domaine à Tavel qui s'est mis à se poser des questions, quoi.
Ok.
Donc c'est un peu le précurseur de tous les changements possibles, imaginables qu'on peut avoir à Tavel. Il fait du rouge clair, quoi. Enfin, il fait du Tavel, mais comme on le faisait avant, sans artifice. Et c'est vrai qu'il a une réflexion, une façon de voir les choses, que ça soit le père ou les deux fils, parce que du coup, enfin nous on les connaît très bien, parce que c'est de notre génération, on a joué au foot ensemble dans Tavel, donc on les voit assez souvent, que ce soit le père ou les deux fils, ils sont tous les trois géniaux, même la mère. Hein. Ils ont tous une réflexion sur le vin qui est complètement différente, et c'est pas du tout du vin de masse, et c'est plutôt des vins de vignerons, quoi, des vins où on prend plaisir à boire, et c'est pas les mêmes vins que le vigneron A, que le vigneron B. C'est pas de la standardisation, quoi. Il y a une émotion et il y a une histoire derrière ces vins, quoi.
Ok. Voilà. Et ben compte sur moi alors pour essayer de les croiser. Promis, je vais regarder à quoi ils ressemblent. Comme ça, si je les croise ce soir, on a réservé à la Courtille justement. Donc je regarderai ça. Et sinon, j'essaierai de les contacter ou tu leur enverras un message de ma part
pour essayer de ça. Ils sont hyper difficiles à contacter.
Ouais.
Bah parce qu'ils sont tout le temps dans leur vigne.
Ouais, ça s'explique. Bon, on ira faire le podcast dans les vignes. Je mettrai, je prendrai le micro à la main et puis ils répondront comme ça. Jean-Baptiste, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble cet après-midi. C'était vraiment top de venir à ta rencontre. J'ai appris pas mal de choses et puis je pense qu'on a eu une discussion qui était plutôt cool. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes qui ont jamais consommé de Tavel par exemple et qui devraient découvrir cette appellation et le travail qu'on fait ici. Partagez-le autour de vous sur les réseaux sociaux. Jean-Baptiste, encore merci et à bientôt.
Merci bien.
Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines. Et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents, c'est le moment d'y aller. Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous. C'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode. parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref, faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, bah, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, donc bah, envoyez-moi un message, je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à dans 2 semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show. Et à très bientôt. Salut.